Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités
et on se fait aller Mâche Patate!
Bonjour tout le monde, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je m'appelle Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec ma collègue Marie-André Asselin. Allô Marie-André!
Allô Marie-Hélène! Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être entendu par la qualité du son qui n'est pas aussi bonne que d'habitude, bien, on enregistre notre épisode à distance par Internet. Puis ça risque d'être le cas pour plusieurs épisodes qui s'en viennent, étant donné eh bien, le contexte sanitaire, oui, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on souhaite inviter au podcast qui ne sont pas à Québec ou qui n'ont pas nécessairement l'occasion de s'y déplacer. Donc, désolée encore une fois pour la qualité du son, mais nous, on pense que le contenu en vaut clairement la peine.
Ben oui, c'est sûr. Ben aujourd'hui, on a le plaisir en fait de vous présenter un super projet qui est né ce printemps à Victoriaville dans le contexte justement de la COVID, puis j'ai nommé les légumes empotés. Donc aujourd'hui, on reçoit Aude Boulanger-Cartier et Laura Bernier qui sont organisatrices du projet. Donc allô les filles, bienvenue à Mâche Patate!
Allô!
Allô, merci pour l'invitation!
C'est un plaisir! Fait que peut-être commencer par vous nous dire brièvement, en gros, en quoi ça consiste les légumes empotés, de quoi on parle exactement?
En fait, les légumes empotés, c'est un projet qui est né d'un petit comité citoyen à Victoriaville autour de mars-avril. Puis le but de ça, c'était de démocratiser les ressources et les savoirs en lien avec le jardinage domestique, donc l'agriculture urbaine. On voulait faire des jardins communautaires, ce qui n'était pas nécessairement possible avec la distanciation sociale. Donc, on a eu l'idée de bâtir des petits bacs à jardin qui peuvent aller soit sur un balcon ou sur un terrain, dépendamment de la dimension. Puis, on a récolté des inscriptions, on a construit les jardins, puis on les a distribués avec toute la terre, le compost, les semences, les tuteurs, la paille, puis aussi tout le volet pédagogique de la chose. Donc, on a tout fait un beau document, un beau petit livret avec chacune des semences qu'on distribuait. Quand les planter, comment les planter, comment les entretenir, comment les cueillir, quoi faire avec. Puis tout au long de l'été, on a suivi les participants et participantes du projet à travers une plateforme en ligne sur Facebook. Puis à chaque semaine, on avait des nouvelles capsules ou des nouvelles publications. N'oubliez pas cette semaine, il faut arroser parce qu'il va faire sec ou c'est l'heure de la taille des tomates, voici comment faire. Ou des fois, il y avait même de l'échange avec les participants et participantes. Donc, ils partageaient des photos. Puis, ils disaient « Regardez mon jardin, comment il est beau, il pousse super bien, le vôtre a l'air de quoi? » Ou « Ah, moi, j'ai telle plante qui n'a pas l'air trop bien, je ne sais pas ce qu'il y a là, pouvez-vous m'aider? » Des choses comme ça. Donc, c'est très, très dynamique. Puis là, on est en train de clore la saison. Là. Ça a été un très bel été avec les légumes empotés.
Wow! Puis, on se demandait un peu... T'sais, par rapport à la genèse du projet, c'est d'où est venue l'idée? T'sais, comment que le projet est né? Est-ce que en janvier, c'était déjà quelque chose que vous considériez ou c'est plus le contexte actuel qui a un peu fait naître le projet?
c'est vraiment le contexte de la COVID là, que, d'où l'idée en fait est partie à la base initiateur du projet, Vincent Boisclair. Lui avait vraiment... Ben, t'sais, il a perdu son emploi, ses occupations avaient changé, se retrouvait en confinement, puis il avait besoin un peu de se retrouver un projet là, pour passer à travers le confinement. Puis c'est lui qui a vraiment démarré, qui a lancé l'idée, en fait. C'est sûr que c'est le genre de projet que tout ça fonctionne pas. Là. Ça te prend quand même une équipe puis des gens qui sont prêts à t'appuyer dans les démarches, tout ça. Mais c'est la COVID qui a déclenché un peu l'initiative du projet. Mais en même temps, on ne voulait pas non plus l'associer juste à ça. Donc, c'est en mars que les premières idées ont été lancées, qui a commencé à approcher de son entourage aussi là, pour monter une équipe pour le projet.
C'est ça, on sait que le jardinage, c'est bon pour la santé psychologique, ça brise l'isolement parce qu'on parle, qu'on se rassemble autour du jardinage, c'est bon pour la stabilité financière aussi. Une fois qu'on l'a parti, bien, on est capable d'en faire ressortir beaucoup, on récolte des légumes, puis c'est très rentable, mais c'est pas nécessairement une priorité pour tout le monde, en fait. Puis il y a certaines portions, des fois, de la communauté qui sont plus fragilisées par cette crise-là qui est pour qui c'était vraiment un avantage d'avoir accès à ces ressources-là, mais même en dehors de la crise, c'est quelque chose qui est très, très bénéfique aussi, là. C'est pour ça qu'on ne voulait pas se rattacher nécessairement à la COVID-19. Puis on est des légumes empotés, on était des petits débutants, on n'est pas des experts là-dedans, un peu comme tous les participants et participantes qui sont inscrits aussi, là.
Mais c'est ça que j'avais demandé, si vous deux, puis peut-être aussi Vincent qui est à l'origine, est-ce que vous jardiniez déjà? Tu sais, comment vous étiez en contact avec cette activité-là à la base?
Je pourrais dire, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'avoir... mes parents, en fait, avaient un jardin, puis j'ai jardiné un peu avec mes parents, tout ça. Mais sinon, pas plus que ça, là, je connaissais pas grand-chose, fait que c'est vraiment à travers le projet que j'en ai appris.
Mais toi, Laura, est-ce que tu jardinais avant?
Moi aussi, c'était pas mal ça. Là. Mes parents, à la maison, il y avait un grand, grand potager. Puis ma mère était maniaque de jardinage. Elle avait ses légumes, ses 26 plants de tomates. Puis à chaque année, elle faisait sa sauce. Puis je l'accompagnais un petit peu. Tu sais, elle me montrait quand elle taillait ses tomates, je ramassais les branches, j'allais les mettre au compost, des choses comme ça. Mais j'ai jamais vraiment jardiné de mon propre chef avant ça. Moi, j'ai étudié au baccalauréat en environnement à l'Université de Sherbrooke. Puis c'est quelque chose qui est en lien avec l'environnement, puis ça me tenait énormément à cœur, l'agriculture urbaine, puis soudainement, c'était comme un nouvel intérêt que j'avais. Donc, le projet m'a inspirée avec tout le volet pédagogique qu'on avait à me faire mon propre petit potager sur mon balcon dans mon appartement. Donc, j'ai pris des vieux tiroirs que j'ai trouvés pendant le temps des grosses vidanges à Sherbrooke, puis j'ai fait des trous dans le bas, j'ai mis de la terre, j'ai tout construit ça, puis j'ai mis mes petites semences, puis j'ai suivi l'aventure avec ça. Mais ouais, c'est vraiment une belle première expérience. On avait justement Vincent Boisclair qui a comme parti l'initiative. Lui, sa sœur, elle est presque autosuffisante chez elle avec son jardin. Donc, c'est vraiment elle, puis aussi notre amie Alexis qui travaille à l'Institut national d'agriculture biologique à Victoriaville. Puis, c'est vraiment ces deux-là qui nous ont aidés avec toutes les connaissances vraiment en lien avec l'agriculture là, dans le projet.
OK. Cool. Fait que dans le fond, si je comprends bien, Vincent n'a pas eu trop de difficultés à vous convaincre les deux à embarquer dans le projet.
Non.
OK. Puis, une chose qu'on se demandait, en fait, c'est que tu l'as souligné, Laura, au début de l'entrevue, que vous avez vraiment construit des bacs. Fait que le but, c'est d'aller chez les gens qui cultivent eux-mêmes. Puis nous, on se demandait pourquoi avoir choisi le format de bac plutôt que, par exemple, vous associer les quatre ensemble, de vous-même cultiver un gros jardin, puis redonner les récoltes à la population, par exemple.
En fait, parce qu'à Victoriaville, il y a un endroit qui s'appelle le Jardin des rendez-vous, qui a été construit par la ville. Puis en collaboration avec les Incroyables Comestibles aussi à Victoriaville. Puis c'est quelque chose qui existe déjà. Donc c'est un grand, grand jardin proche du cégep. C'est vraiment au cœur de la ville. Puis pour vrai, moi j'ai des amis qui ont travaillé là à s'occuper des jardins. Puis ils voient même pas leurs récoltes. Ils n'ont pas le temps de les voir. Les gens, ils viennent déjà les chercher. Puis il n'y a jamais rien parce que les gens, ils en profitent vraiment au maximum.
OK. Ouais. Ouais, OK, je comprends. Fait que vous vouliez vraiment... que les gens aient chez eux la possibilité de jardiner, puis comme c'était plus dans la transmission de connaissances, finalement, c'est sur, sur ça que vous vouliez miser davantage.
Exactement.
Super.
Cool.
Je sais que c'est un projet quand même d'une certaine ampleur, c'est ça que vous aviez au départ proposé, je pense, une centaine de bacs que vous aviez rendus disponibles, si je ne me trompe pas. J'imagine
ouais,
que ça...
exactement.
J'imagine que ça prend quand même beaucoup de partenaires puis de bénévoles aussi. Fait que je me demande un peu comment vous avez fait pour comme, mobiliser des gens autour de ce projet-là, surtout que c'est relativement sur du court terme. Ça s'est passé rapidement, je pense.
Oui, ça s'est passé ultra rapidement. En fait, c'est ça. Même au début, on savait même pas trop comment construire les bacs, quels matériaux fallait utiliser. Puis aussi, tu sais, c'est quand même de l'argent. Parce que oui, tu sais, au début même, on avait dans l'idée de donner 100 potagers. Finalement, tu sais, on a réussi à en construire 80 avec le manque. C'est ça, la construction s'est faite sur deux fins de semaine. Oui, c'est ça, j'ai mis un petit blanc. Deux fins de semaine. Donc, il fallait avoir les matériaux, tout ça, ça nous a tous... Tu sais, on a réussi à trouver des partenaires avec des entreprises de la région. Par exemple, le bois nous a été donné. La terre, c'est la ville qui nous l'a fournie. Des semences aussi, là, la majorité, ça a été des commandites. Il n'y a presque rien là, qu'on a dû acheter justement. Puis les bénévoles, ben en fait, dès le début, moi, j'en parlais quand même beaucoup du projet avec mon entourage. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rattachés un peu à ce projet-là qu'ils trouvaient très intéressant, d'une part. Puis aussi, ça allait de soi que durant la COVID, fallait aider la communauté. Donc, au final, c'est comme... Il y a 17 bénévoles qui sont venus sur les deux fins de semaine pour nous aider à construire les bacs.
Wow, pareil! Puis comment vous avez fait pour mobiliser la population? Est-ce que les 17 personnes, c'était comme vos amis ou vous avez fait des appels plus larges ou quoi que ce soit où les gens venaient vous interpeller carrément?
On a fait une annonce sur Facebook. Il y a des groupes, par exemple le groupe d'agriculture biologique à Victoriaville, qui est affilié en fait au cégep de Vito. Puis eux, sont venus nous donner. Il y a quelques personnes là, qui sont venues nous donner un coup de main. Sinon, il y a les cadets. Il y a un groupe de cadets qui sont venus sur place aussi là, pour nous aider durant une des deux fins de semaine. Sinon, ça a été du bouche à oreille, j'ai eu l'impression, là, parce que c'était pas que nos amis non plus. Là. On a réussi à trouver d'autres gens qui ont voulu venir nous donner un coup de main.
Super. Puis où est-ce que vous vous installiez pour fabriquer tout ça? Puis comme tu sais, ça prend de la place un peu à stocker aussi.
Bien, on avait, c'est justement avec des partenariats avec des organismes de la région ou des entreprises de la région. Pour l'atelier, pour la construction des bacs, il y a la place Rita Saint-Pierre, c'est là que la majorité des organismes communautaires sont. Puis, il y a l'autre fabrique, qui est un organisme qui est pour les handicapés physiques. En fait, eux vont là pour fabriquer des meubles puis revendre pour se financer. Puis c'est super beau, en tout cas, la mission de cet organisme-là. Je vous encourage à aller voir un petit peu. Mais bref, ils nous ont prêté leur atelier de bois. C'est tout équipé, là. Ils ont vraiment tout. Puis, nous autres, on est juste arrivés là. On a voyagé le bois qui nous avait été donné. Puis, dans le stationnement à l'extérieur, on construisait le bac à l'intérieur. On le sortait dehors. Puis, on le mettait sur un trailer pour aller soit le livrer ou soit la personne le chercher, là, dépendamment des cas. Mais c'était vraiment, on le construit, on le donne, on le construit, on le donne. Donc, on n'avait pas vraiment à stocker tant que ça, okay. Les bacs en tant que tel, ouais.
Quand même de la logistique de toute la livraison, ouais. Là, il vous fallait, j'imagine, quand même quelques véhicules. Parce que ça me semble d'une certaine ampleur quand même à gérer.
Il y a eu quelques bris de trailer en cours de route.
Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est ça, ça s'est fait sur deux fins de semaine, mais dès que vous n'avez pas donné toutes les bacs en même temps, dès qu'il y en avait une batch de prêtes, par exemple, vous alliez les porter, puis les jardins étaient faits sur le champ, par exemple.
Exactement.
OK. Puis, je me demandais, parce que là, vous avez parlé d'environ 80, puis ça visait quelle clientèle, puis comment vous avez fait un peu pour rejoindre ces personnes-là, puis sélectionner, si je puis dire, là, les participants de votre projet?
Mais c'est un peu en lien avec ce que je disais tantôt par rapport aux bénéfices du jardinage. Bien, les effets attendus par la COVID-19, c'était l'isolement, des troubles de santé psychologique, puis des troubles de stabilité financière. Donc, on essaie d'aller rejoindre les gens qui seraient plus affectés par ces répercussions-là à Victoriaville, qui sont peut-être déjà plus... comment dire, je ne veux pas dire fragile, mais plus vulnérable à ce genre de choses-là en général, ou pour qui jardiner n'est pas une priorité. Donc, on est vraiment allé voir, on est allé distribuer des formulaires d'inscription, notamment à la sécurité alimentaire, puis sur Facebook aussi, on en a envoyé. Des fois, il y avait des jeunes familles qui, tu as un nouvel emploi, tu as une nouvelle maison, tu as des enfants, mais là, bam, une pandémie, c'est pas évident. C'est pas évident pour personne, en fait. Là. C'était vraiment ça. On voulait que ce soit ouvert à tout le monde. Et on a fait vraiment des efforts pour aller vers les organismes communautaires qui sont déjà en contact avec les gens qui sont souvent plus vulnérables ou qui peuvent bénéficier vraiment de ça.
Et est-ce que vous avez eu une belle réponse de la population? Est-ce que ça s'est rempli facilement?
Oui, on s'attendait justement à avoir... On voulait au moins 100 inscriptions, puis on en a eu plus que ça. Je ne me souviens plus combien. Oh, tu te souviens-tu? C'était entre 100 et 200?
Oui, en fait, on en a eu 250.
Wow!
On a eu 250 inscriptions. Donc, c'est sûr qu'il fallait... Il y a des gens qui auraient voulu avoir un bac qui était totalement... il y avait toutes les conditions là, pour en avoir. Mais on ne pouvait malheureusement pas leur... c'est ça, leur randonnée. Donc, des fois, c'est un peu difficile de faire la sélection aussi. Là, parce que, tu sais, autant il y avait des gens, justement, à cause de la COVID, qui n'avaient pas nécessairement... qui, initialement, n'étaient pas dans une situation de précarité, qui, là, le devenaient. C'est ça. Ça faisait beaucoup de... beaucoup de gens, quand même.
Ouais. Puis, beaucoup de téléphones aussi, hein. Moi, mon numéro, il a été sur le formulaire d'inscription, puis... ouais, pour les bacs, c'est comment que ça marche? Puis là, ah, OK, bon, j'explique ça. C'est pas tout le monde, justement, c'est pas tout le monde qui avait Internet aussi. Alors, les gens chez qui on allait, ben, les gens qu'on voulait aller rejoindre, là, c'est pas tout le monde qui a nécessairement accès à un ordinateur ou à Internet.
Non,
donc, on a essayé de fonctionner avec ça aussi, sauf pour la plateforme en ligne. Ensuite, c'était plus difficile un petit peu parce qu'on avait comme objectif au début de faire une infolettre pour les gens qui n'avaient pas Internet, leur distribuer à leur adresse. En format papier, vraiment comme un petit résumé de ce qui a été fait pendant la semaine puis ce qui est à venir. Mais finalement, c'est une des choses qu'on a manqué de temps ou de bénévoles pour faire. C'est sûr que là, c'est déjà en mai, là, on commençait à déconfiner, donc on a eu moins de ressources par rapport à ça. En confinement, on avait tous du temps, mais c'est ça.
Oui, bien, j'allais justement parler de ça. Je trouvais, tu sais, c'est comme simple, mais en même temps, c'est souvent quelque chose qu'on perd de vue, tu sais, que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet, puis il y a plein d'initiatives qui se font puis qui se lancent juste en ligne, tu sais, mais ça rejoint pas toujours le bon public, là, fait que je trouvais ça vraiment bien de votre part que vous ayez pris la peine de faire les démarches pour rejoindre les bonnes personnes, finalement.
Puis, ben c'est ça, là, on était beaucoup, là, genre, dans le début de la saison, puis tout ça, avec le rush de fabrication, de distribution et tout, mais après, tu sais, je veux dire, d'un coup, tout était lancé. Est-ce que vous trouvez que vous avez réussi à comme garder une espèce d'esprit de communauté au travers des gens avec les bacs? Qu'est-ce que tu disais là, des petits posts sur Facebook puis que les gens puissent rentrer en contact? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez atteint cet objectif-là?
À un certain niveau, je dirais que oui. D'une part parce que justement sur la page, sur le groupe Facebook, il y avait les gens, ils partageaient régulièrement des photos, ils posaient des questions, puis il y avait toujours Stéphanie qui connaissait un peu plus là, justement les jardins qui répondaient à leurs questions, mais aussi entre eux, ils réussissaient à trouver des solutions puis proposer des techniques pour pallier un certain problème, par exemple du blanc sur les feuilles, des concombres, mais à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui avait trouvé une technique, fait qu'il la proposait aux autres. Fait que c'était le fun, c'est intéressant aussi de voir le relais qui se crée. C'est sûr qu'à la base aussi, on avait un volet plus activité sociale qui tournait alentour de l'agriculture urbaine. Puis à ce moment-là, on n'a pas réussi à faire autant qu'on aurait voulu. Par manque de temps. C'est sûr que, c'est ça, le projet a été quand même assez... c'est très rapide à construire. Puis avec plus l'été avançait, et plus c'était difficile de voir un peu comment faire les activités, tout en ayant quand même en tête la distanciation sociale, tout ça. Fait que... Mais ça va être peut-être une prochaine
année. Ce n'est que partie remise.
C'est ça, ouais. ça peut pas être parfait l'année 1, sinon il n'y aurait rien d'autre à faire.
Et c'est surtout aussi, ouais. Nous autres, on insiste beaucoup, depuis le début du projet, on insiste vraiment à mettre de l'avant que c'est un projet pilote. Je veux pas, on a des idées, on a des objectifs, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout atteindre, puis ça ne veut pas dire qu'on a les moyens de tout faire, mais on tente le terrain, puis pour voir ensuite qu'est-ce qu'on va être capable de faire, peut-être dans d'autres éditions ou dans différents projets qui vont rejoindre le même genre de volet. En tout cas, c'est une belle... je trouve qu'on a vraiment bien fait ça pour un projet pilote, puis une première avancée. Mais oui, c'est un projet pilote.
Mais c'est ça, moi, je trouve ça super intéressant parce que, ben, tu sais, moi-même, dans mon travail, souvent, il y a comme quand même des différences entre l'intention. Tu sais, on va faire tel projet, puis là, on met sur papier tout ce qu'on veut réaliser et tout. Mais après ça, il y a tout l'aspect technique puis les contraintes qui entrent en jeu qui fait que souvent, la première année d'un projet, c'est comme difficile de réaliser comme 100% de ce qu'on veut. Puis moi, je le vis année après année sur le terrain. Fait que je trouve ça intéressant de voir que ça arrive à d'autres gens aussi. Puis que, non, mais tu sais, ça montre que, tu sais, je veux dire, il y a toujours place à l'amélioration. Puis des réajustements. Fait que, tu sais, je veux dire, on apprend constamment, puis c'est ça qui est super, je trouve, là. C'est ça.
Moi, j'ai envie de vous demander peut-être quel serait comme le principal apprentissage que vous avez fait à travers ce projet-là, puis aussi peut-être c'est quoi votre plus grande fierté que vous retenez. Peut-être Aude en premier, si tu veux y aller.
Ouais. ouais, ben mon plus grand apprentissage, je dirais, c'est d'être capable de se détacher à un certain point. Tu sais, des fois, tu as des objectifs, puis tu veux vraiment les atteindre. Tu sais que ça il y a plein de choses qui font en sorte, finalement, que ça fonctionne pas. Mais c'est ça, c'est d'aller aussi avec la volonté des gens. Parce qu'en fait, nous, on était sur le projet, on était tous des bénévoles. Fait que des fois, tu voudrais comme demander plus pour être sûr que le plan initial fonctionne. Mais il faut aller aussi avec l'énergie des gens puis leur envie de participer à ce projet-là. C'est d'être capable de faire des petites concessions aussi par rapport à ça. Sinon, je dirais que ma plus grande fierté, ben, c'est vraiment juste que le projet il ait quand même continué malgré les quelques embûches qu'on a pu traverser. Puis que les gens ont démontrer un intérêt envers. Puis même ceux qui ont eu des bacs cette année, ils nous demandent encore est-ce que ça va revenir l'an prochain. Si ça revient, moi, je veux aider. Je vais venir vous aider pour la construction des bacs. Si je peux apporter quel que soit le soutien, là, j'ai envie de le faire pour permettre à d'autres personnes comme moi qui en ont eu besoin à ce moment-là, ben, d'y avoir accès aussi. Donc ça, c'est quand même vraiment, c'est une belle récompense là, de voir que les gens ont envie d'y participer.
Oui, bien là, je vais te laisser parler, Laura, après, mais je voulais juste dire, c'est ça, je me demandais si vous pensiez que les gens qui avaient jardiné cette année à cause des légumes empotés allaient continuer à jardiner par la suite, mais ça semble avoir soulevé l'intérêt.
Oui, on a eu beaucoup de réponses, surtout sur la page Facebook. Il y a des gens qui nous envoyaient des messages en privé, pas juste dans le groupe public, mais aussi en privé, disant « Merci tellement pour ça. Ça faisait quelques années que je voulais me partir en jardinage. Je ne savais pas trop comment. Puis c'était toujours quelque chose que je repoussais. Mais vous avez réussi à me donner une go. Puis là, ben, je vais continuer avec mon bac. Je vais essayer des nouvelles choses. » Puis ouais, on a vraiment une vraiment bonne réponse avec ça.
Cool.
Wow. Ouais, ce que je retiens le plus de ce projet-là, je pense que c'est l'importance de monter quelque chose de solide puis d'avoir un plan qui est relativement concret avant de commencer, parce que j'ai remarqué que ça a tellement été facile, entre guillemets, la suite. Là, on est allé chercher des partenaires, puis n'importe qui qu'on allait voir, tu sais, ils voyaient toute la documentation qu'on s'était montée, puis toute la recherche qu'on avait faite avant le projet, puis tout le plan qu'on s'était établi, vu que c'était solide, ils ont dit « ben oui, j'embarque », ils n'ont même pas hésité, puis les gens étaient vraiment touchés par notre initiative. Je pense que c'est ça, ça m'a fait remarquer que c'était vraiment important de se bâtir quelque chose de solide avant de commencer, puis d'avoir aussi de croire vraiment en ce qu'on fait, de pas juste dire « Ah, j'ai telle idée, voici ce que je veux faire, voici mon échéancier, blablabla », mais de se l'approprier, puis d'avoir de l'entre-gens, je pense que c'est important aussi, puis c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup à travers ça. Puis je pense que ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir pu rassembler la communauté comme ça. C'était vraiment beau à voir tout au long de l'été, là. Moi, c'est sûr, je viens de Victoriaville, mais ça faisait plusieurs années que je vivais à l'extérieur pour les études et tout ça. Donc, je m'étais comme un petit peu détachée de cette communauté-là. Mais ce beau projet-là m'a vraiment fait voir que, waouh, ma ville natale, les gens sont bons. Il y a vraiment du potentiel, là. Puis, il faudrait en profiter pendant qu'on peut.
Non, c'est super beau. Puis là, c'est pas que je veux vous pousser dans un futur là, précipité, parce que là, j'ai comme l'impression que ça va être plus l'heure des bilans, clore la saison, puis tout ça. Mais est-ce que vous vous projetez déjà dans le futur? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il va y avoir une année 2? Est-ce que vous pensez déjà à ça? Ou là, c'est une chose à la fois, on clôt, puis on en reparle plus tard?
Alors, est-ce que tu veux y aller?
Oui, je peux y aller. Là, dans le fond, c'est comme je disais un peu tantôt, pendant le confinement, on était un beau petit comité, d'une 10-12 de jeunes. Puis, on avait du temps à donner, puis on voulait vraiment s'investir. Ensuite, à partir de mai, on a commencé à déconfiner. Puis, tout le monde a comme repris ses occupations normales, retourné au travail, retourné aux études, blablabla. Donc, c'était plus le même temps qu'on avait à consacrer là-dessus, puis la même motivation nécessairement. Donc, le comité a comme un petit peu changé, puis c'est normal. Et là, on est justement en train d'essayer de se reconstruire. Voilà, on a deux nouvelles bénévoles qui sont joints à nous, qui sont incroyables, qui s'investissent, qui ont de l'expérience avec les organismes communautaires, qui nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense à vous, Mia et Catherine. Puis... aussi, là, justement, on est allé au marché des récoltes de mon marché à Victoriaville. On est allé parler de notre projet, distribuer des petits pots de salsa et de relish qu'on avait fait aux cuisines collectives la fin de semaine d'avant. Puis, en parlant de notre projet, on a comme attisé une curiosité dans des gens à l'INAB, au cégep à Victoriaville, dans l'agriculture biologique. Puis, il y a une nouvelle ASC en agriculture urbaine. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui veulent vraiment... qui cherchent des projets en agriculture urbaine, qui veulent donner du temps, qui veulent s'investir, puis qui ont envie de s'impliquer, puis qui ont vraiment ça à cœur. Donc, on a une rencontre avec eux d'ici deux semaines environ, là. Donc, on essaie de se refaire notre plan de match, de, oui, aussi clore la saison pour vraiment faire le bilan de ce qu'on a fait, puis comment se repartir après, là. Dans le gros pêle-mêle de tout ça présentement, là, ouais, c'est gros roche.
ça fait quelques fois que vous nommez, tu sais, justement, le partenariat possible avec le cégep, tout ça, puis le fait que Victo, c'est déjà comme un milieu de vie qui est très ouvert sur l'agriculture urbaine, puis des initiatives comme les Incroyables Comestibles, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui aurait été aussi facile ou aussi possible ailleurs qu'à Victo?
Ben, moi, personnellement, je trouve qu'à Victo, on avait déjà, comme tu dis, une bonne prédisposition à ça, là. Justement, quand on a fait notre recherche avant de commencer le projet, on avait plein de points qui étaient en lien avec Victo, dont l'adoption d'une nouvelle politique d'agriculture urbaine, puis justement, comme je disais, une nouvelle ASC en agriculture urbaine au cégep, puis tout ça. Donc, puis le fait aussi que Victoriaville est comme un leader en environnement, c'est le berceau du développement durable, donc c'est quelque chose qui fait qu'on a comme une longueur d'avance. Mais je pense aussi que quiconque a envie de partir un genre de projet comme ça pourrait décider de sonder autour de lui puis aurait le potentiel de le commencer. Il suffit juste de que quelque chose commence puis ensuite ça s'enfile puis les gens ont ça à cœur. Des fois, on le remarque pas, mais les gens, ils ont vraiment ça à cœur. On l'a vu dans les manifestations climatiques, notamment le 27 septembre l'année dernière. Moi, j'étais à Sherbrooke, il y avait 10 000 personnes dans les rues environ, là, qui ont estimé. Mais ces gens-là, c'est pas nécessairement des activistes, mais ils ont vraiment ça à cœur, puis on le voit pas toujours. Ouais. Donc, je pense que c'est important.
Mm-hmm. C'est aussi le fait que souvent, l'agriculture urbaine, on associe ça à Montréal ou dans des villes un peu plus grandes. Puis le fait que ça se retrouve aussi en région, je trouve que c'est vraiment important. Fait que peu importe, moi j'encourage à peu près toutes les municipalités à avoir un projet similaire à celui-là, là. Juste parce que, tu sais, c'est pas juste associé à, je pense, à Montréal ou à Québec, là, c'est ce genre de projet-là, ça peut être un peu partout, là.
Tout à fait. Ben, en fait, c'est ça, je me demandais justement, parce que peut-être que vous allez inspirer certaines personnes à mener de l'avant un projet, puis je me demandais, parce que vous avez nommé beaucoup de choses que vous avez appris et tout, si vous aviez comme un ou deux conseils clés à dire là, à quelqu'un qui vous écoute puis qui se dit « OK, moi, je veux partir quelque chose », ça serait quoi la meilleure recommandation que vous pourriez faire là, à cette personne-là là, qui attend juste un petit go pour partir son nouveau projet?
Ben moi, j'aurais tendance à dire approcher les organismes communautaires. Puis, ouais, c'est vraiment... ben, tu sais, je pense que d'un, ça l'aide un peu à s'orienter parce que c'est vrai qu'on on sait pas trop non plus vers où se tourner, tu sais, qui approcher. Tout ça, je pense que les... Tu sais, il y a la ville aussi. Tu sais, dès le début, nous, la ville, elle a été approchée pour nous aider dans le projet. C'est d'avoir des organismes ou des partenariats qui sont plus stables avec des gens qui sont impliqués de différentes façons, mais qui sont présents, puis dans des institutions qui sont, c'est ça, une genre de stabilité qui permet d'assurer soit une pérennité, mais un appui aussi, là, parce que c'est ça, tout seul, ça peut être assez décourageant là, quand on ne sait pas trop vers quoi s'enligner.
Moi, je dirais que c'est important de se rappeler qu'on ne sait pas tout, puis on n'est pas capable de tout faire tout seul. Donc, c'est important de reconnaître qu'il faut aller chercher de l'aide, peu importe le type d'aide, que ce soit, que ce soit des connaissances, que ce soit du financement, que ce soit du réseautage même. Je pense que c'est important de reconnaître que c'est toujours bénéfique d'avoir d'autres gens à son bras, puis d'utiliser tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition, qu'on ne voit pas nécessairement toujours, puis d'aller chercher de l'aide pour pouvoir utiliser ces outils-là. Puis je dirais aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un email à leslegumespotés, pas d'accent, tout dans un bout, à commercialdumail.com ou à nous écrire sur la page Facebook. Si vous voulez partir un projet, peu importe où, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs, bien nous, on est prêts à tout léguer notre documentation ou partager notre documentation, toute la recherche qu'on a faite parce que, on n'est pas à but lucratif, on ne veut pas... garder ça juste pour nous. On veut vraiment partager et on va encourager les gens à commencer un projet de ce type-là aussi chez eux. Donc, n'hésitez pas à nous écrire puis on va vous donner nos trucs qu'on a, là.
Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez déjà au courant ou pas d'avoir de créer des petits, mais à Lévis, il semble y avoir un projet qui est né des Sud des légumes empotés, donc des jeunes bénévoles de l'Unisson à Lévis qui ont créé un projet un peu semblable au vôtre cet été.
Oui. Ça, c'est... Dans le fond, c'est Vincent qui a parti l'initiative. Il était au bac en environnement avec moi à Sherbrooke avec un ami en commun qui s'appelle Rémi de Lévis. Okay. Puis c'est de là que c'est parti, en fait. Ouais. C'est justement, on lui a donné nos trucs puis nos recherches. Puis, ouais.
Wow.
Mais c'est très beau à voir, c'est inspirant.
Ouais, c'est cool!
Ouais.
Sur un point de vue personnel, là, comme vous, t'sais, en tant que Aude et Laura, comme qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que d'avoir été impliquée dans ce projet-là, est-ce que ça l'a influencé comme vos projets futurs? Est-ce que vous voyez l'impact que ça a à plus long terme dans votre vie à vous de vous être impliquée dans ce projet-là?
Personnellement, oui, quand même, énormément. Je m'ennuyais, tu sais, probablement la maîtrise en environnement. Puis là, c'est ça, je me demande encore si peut-être une formation en développement communautaire ou peut-être développement de projet, mais un peu plus axé sur... la communauté ou qui est en lien avec l'environnement là, mais qui est à un niveau un peu plus à plus petite échelle. Ouais, je pense que ça, en tout cas, ça a vraiment j'avais un intérêt pour les projets, mais là j'ai trouvé vraiment quand même quelque chose d'assez intéressant sur quoi me baser puis que je voudrais continuer à refaire éventuellement, ça c'est certain.
Cool.
Moi, je sais pas par où commencer, en fait, là. Je trouve que ça m'a tellement apporté, ce projet-là. Puis c'est sûr que ça m'a motivée à jardiner sur mon petit balcon pendant le mois de juin-juillet, pendant que j'étais chez moi à Sherbrooke, puis au mois d'août, ensuite, j'ai changé d'emploi. Mais ça m'a vraiment motivée à me commencer. Sinon, je l'aurais peut-être pas fait. Puis je serais peut-être allée chez des amis profiter de leur jardin, mais j'aurais pas eu le mien, puis j'aurais pas eu... la volonté d'agir. Puis aussi, ça me confirme que en environnement, c'est beaucoup de la gestion de projet en environnement, puis de la recherche, puis savoir s'outiller des personnes qui sont des spécialistes autour de nous, puis mettre tout ça en commun. Puis ça me confirme vraiment que c'est quelque chose que j'aime faire, puis que je veux continuer à faire, puis qui me tient vraiment à cœur, puis qui me motive. Puis c'est là-dedans que je veux travailler plus tard. Donc, ça, ouais.
D'ailleurs, on ne vous l'a pas demandé au début de l'entretien, mais est-ce que c'était la première fois que vous impliquiez autant dans un projet bénévole de cette ampleur-là? Ou...
Bien, moi, j'avais déjà fait des projets au secondaire. J'avais notamment aidé à monter des comédies musicales. C'est quand même des gros projets qui durent toute l'année avec un comité. C'est beaucoup d'organisation. Mais dans le domaine de l'agriculture, non. Où c'est vraiment aller pour redonner à la communauté... C'est vraiment une première.
Toi, Aude?
Moi, je vais à ce niveau-là être autant impliquée parce que, tu sais, j'ai déjà fait partie de plusieurs projets, mais sans nécessairement avoir un rôle plus d'organisation ou vraiment être responsable d'un projet. À ce niveau-là, non, mais ça a vraiment été ultra enrichissant parce que c'est sûr que c'est très différent. Là, j'ai une perspective tout autre un peu de quand t'es responsable versus quand tu fais juste participer à un projet. Mm-hmm. C'est quelque chose d'un peu déjà de clé en main, puis on te dit un peu où aller, puis quoi faire. Mais là, c'est toi qui dois un peu plus réfléchir par rapport à tout ça, donc... À ce niveau-là, c'est la première fois.
Mais c'est le fun parce que l'année dernière, on a fait un podcast justement sur l'engagement social. Puis une des choses qui ressortait beaucoup, c'est à quel point les gens, tu sais, des fois, on a une vision de l'implication que c'est juste donner. Puis là, c'est super intéressant parce que la façon que vous en parlez, c'est que vous avez quand même un retour d'expérience puis d'enrichissement qui est quand même assez incroyable. Fait que ça montre encore plus que quand on s'implique vraiment dans quelque chose avec notre cœur, bien, tu sais, au final, ça a comme... C'est vous autres, vous en ressortez comme aussi enrichi que toutes les gens qui en ont bénéficié autour de vous. Fait que,
absolument.
C'est encore une fois très, très cool.
Oui. Tu sais, c'est des compétences qui s'appliquent partout après. Tu sais, c'est pas comme... Genre, apprendre, mettons, la fabrication des bacs eux-mêmes, c'est cool, mais c'est comme limité comme compétence, mettons. Mais la gestion de projet, puis tout ça, ça s'applique dans un paquet de domaines après. Fait que c'est chouette. Oui. Puis, mon autre petite question que j'avais, qui est vraiment une question de curiosité personnelle, parce que je m'occupe des communications, je trouvais que votre branding, t'sais, votre graphisme, tout ça, était vraiment chouette. Je voulais le souligner. Puis, t'sais, je me demandais s'il y avait quelqu'un dans votre équipe qui était, t'sais, qui s'y connaissait plus en communication, tout ça, parce que je trouvais que c'était votre force, en fait. Yeah, Laura!
C'est moi qui ai fait les dessins, mais il y avait Myriam, au début du projet, qui, elle travaillait dans le domaine de la communication, elle avait étudié là-dedans, puis... À fond, moi, je faisais les dessins, puis j'avais trouvé toute l'identité visuelle, puis c'est elle qui trouvait des jeux de mots, qui faisait les petits posts avec oignon, puis une petite annonce, des choses comme ça. Puis ensuite, c'est Aude qui a pris la relève quand Myriam n'avait plus de temps nécessairement à donner. Moi, je fais encore des petits dessins quand il faut. Puis ça. Le graphisme, c'était plus moi, mais communication, c'est vraiment Aude et Myriam qui s'en occupaient. Ouais.
Cool, ben bravo, en tout cas, c'était vraiment bien.
Merci. Donc, un grand merci, Aude et Laura. Bien, on vous souhaite de beaux succès là, pour la suite. Franchement, c'est vraiment super cool ce que vous faites. Puis, c'est vraiment génial de voir des initiatives comme ça prendre vie. Puis, on espère que d'entendre les filles parler vous aura donné envie de lancer un projet là, dans votre coin de pays aussi. Du moins, bien, nous autres, ça nous fait prendre conscience du rôle social et collectif de l'agriculture urbaine. Puis, c'est un aspect qu'on perd souvent de vue, je m'excuse, quand on se concentre sur des questions techniques de jardinage, en fait.
Oui. Puis, bien, aussi en terminant, comme on approche tranquillement, pas vite, mine de rien, de notre 50e épisode déjà, bien, on aimerait vous solliciter, en fait, pour souligner l'occasion. Donc, on aimerait beaucoup vous entendre un peu hein, pour faire changement, parce que nous, on parle juste devant nos micros ou bien là, nos ordinateurs, mais on voit pas qui nous écoute à l'autre bout. Donc, ben, ce qu'on vous inviterait à faire, si ça vous dit, c'est d'enregistrer juste un petit message vocal, par exemple sur votre téléphone, quelque chose de court, genre 30 à 60 secondes à peu près, pour nous dire ce que vous appréciez de Mange Patate, nous partager aussi si ça vous dit une petite histoire en lien avec le jardinage, ou souligner peut-être un bon coup là, dont vous êtes fier dans votre potager, quelque chose comme ça. Puis on pourrait intégrer de vos segments dans notre 50e épisode. Donc, enregistrez un petit mémo vocal, envoyez-nous le tout à l'adresse mange-patate @commercialurbainculteur avec un S à la fin, .org, d'ici le 26 novembre, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas aussi de vous présenter au début du message. Hein. Fait que donc, par exemple, bonjour, je suis Marie-Hélène de Québec, et puis là, vous continuez votre message. Puis donc, je répète, ça sera envoyé à marche-patate@commercialurbainculteur.org d'ici le 26 novembre.
D'ici là, eh bien, on se retrouve dans 2 semaines si tout va bien. Puis merci de nous avoir écoutés. Puis n'hésitez pas à partager ou à vous abonner à notre podcast. Et on vous invite également à suivre les Urbainculteurs sur Facebook et Instagram. Donc, à bientôt.
Bye bye. Bye bye.